France Inter. Le 18-20, Alexandra Ben Saïd.
Il n'y en a pas tant sur la planète des économistes stars qui n'ont pas peur de se frotter au grand public et surtout qui parviennent à déclencher le même intérêt partout sur la planète. C'est le cas de Thomas Piketty, l'auteur de Capital et Idéologie. Son précédent livre, Le Capital au XXIe siècle, a été acheté par plus de 2,5 millions de personnes. Le film devait même sortir en salle, en France, il y a 10 jours, pour nous raconter l'économie, les choix politiques, le capitalisme et l'histoire des inégalités. Mais tout ça, c'était avant. À présent, nous n'avons qu'une chose en tête, le coronavirus. La crise sanitaire engendre une nouvelle crise économique. Alors faisons-nous ce qu'il faut, comment en sortirons-nous? Le téléphone sonne ce soir et c'est Thomas Piketty qui décroche.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Thomas Piketty, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue et merci d'être avec les auditeurs de France Inter ce soir. Je voudrais déjà qu'on essaie de prendre la mesure de ce qui est en train de nous arriver, la mesure de la crise économique. Le ministre de l'économie l'a comparé avec, dans son ampleur, avec la crise de 1929. Est-ce que ça vous paraît valide ?
Écoutez, je crois d'abord que personne ne sait très bien à ce stade et les circonstances du déclenchement de la crise actuelle sont complètement inédites. Enfin, on n'a jamais eu un épisode de confinement comme ça de tout un pays et en fait de toute une partie de la planète qui peut durer peut-être 5 semaines, 6 semaines. Personne ne sait très bien. Donc fondamentalement, personne ne sait très bien comment l'économie va se relever. Certains disent que par rapport à des crises précédentes, on aura peut-être un relèvement extrêmement rapide. Moi, je ne peux pas faire des prévisions sur un événement qui est complètement neuf. Ce qui est certain, c'est que si on veut éviter le pire, il va vraiment falloir que la puissance publique prenne des mesures complètement inédites pour compenser les pertes de revenus qui vont être considérables, avec des personnes qui dans certains cas peuvent bénéficier de mesures sur le chômage partiel, mais beaucoup d'autres qui n'en bénéficient pas dans l'état actuel des choses. Et donc il faut vraiment des mesures inédites. De façon générale, je voudrais quand même commencer par dire que le plus important, bon, il y a le temps du bilan viendra. Il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut dire, évidemment, sur des insuffisances, sur un investissement insuffisant dans les services publics, les services de santé. Mais aujourd'hui, l'urgence absolue, c'est d'abord d'éviter, évidemment, que la catastrophe fasse des dégâts humains encore plus importants. Et donc, avant tout, on n'est pas là, on va pas faire des arguties sur est-ce qu'il faut plus ou moins de confinement. Il faut suivre les instructions à la lettre. Il faut vraiment tout faire. Et malheureusement, on peut souvent pas faire grand-chose chacun individuellement, mais au moins faisons-le d'une façon extrêmement extrêmement rigoureuse.
Ça, c'est pour la crise sanitaire, et vous avez raison. Mais pour quand vous parlez de catastrophe sur le plan économique, qu'est-ce que ça peut être? Que faut-il redouter, Thomas Piketty?
Ben, vous avez une partie considérable de la population dont les revenus vont s'effondrer, et donc à la sortie d'une période comme ça, vous pouvez avoir un cycle de faillite en cascade chez très nombreuses petites entreprises, mais aussi sur des grandes entreprises dont toute l'insertion dans l'économie internationale et les échanges internationaux est évidemment complètement remise en cause. Donc vous pouvez avoir des phénomènes d'effondrement en cascade de l'activité économique, avec des niveaux de chômage qui peuvent monter. Bon, alors l'analogie avec la crise des années 30, juste pour rappeler, la crise des années 30, on a eu jusqu'à 25-30% de taux de chômage dans les principales économies développé. On n'en est pas là aujourd'hui, mais ce qu'on sait en même temps de toutes ces expériences et aussi de la crise de 2008, c'est que on a besoin de prendre très tôt des mesures extrêmement fortes pour éviter ces phénomènes de faillite en cascade entre entreprises qui peuvent nous mener très loin. Et on va pas pouvoir se contenter. Oui, allez-y.
Non, justement, vous êtes en train de dire il faut des réponses à la hauteur. Est-ce qu'on peut évaluer ensemble la réponse française, par exemple? Pour l'instant, ce qu'on a vu, il y a des bouées de sauvetage, il y a donc ces mesures de chômage partiel, il y a aussi les reports de charges, les prêts garantis pour les entreprises. Peut-être qu'on peut d'abord avoir une vision globale. Est-ce que ça, c'est pour l'instant à la hauteur? Est-ce que la France fait ce qu'il faut, l'exécutif fait ce qu'il faut?
Alors, si on regarde d'abord un niveau global, disons mondial, ce qui est quand même frappant, c'est à quel point l'Europe, pour l'instant, est aux abonnés absents. C'est-à-dire que, si on fait la comparaison avec les États-Unis, en quelques jours, le Congrès états-unien, malgré toutes les limites du système politique américain et de la présidence Trump en particulier, le Congrès a été capable de voter en quelques jours un plan de relance de 2000 milliards de dollars d'une ampleur considérable. En Europe, les institutions actuelles ne permettent pas l'adoption d'un budget de cette ampleur, de mettre en commun des ressources telles qu'on devrait le faire. Donc, il y a la Banque Centrale Européenne qui a fait ce qu'elle peut, enfin au début...
Est-ce qu'elle n'a pas réagi vraiment très vite? Thomas Piketty, est-ce qu'elle n'a pas réagi beaucoup plus vite qu'en 2008?
On va mettre... Bah, la Banque Centrale Européenne, qui avait fait des grosses erreurs en 2009-2010, ce qui avait contribué à l'aggravation de la crise en Europe, effectivement, là, a dit, on va mettre 750 milliards d'euros sur la table. Mais vous voyez déjà la différence, c'est que, comme en Europe, on n'a pas les institutions politiques permettant d'avoir un budget en commun et de la solidarité budgétaire en commun, là où les États-Unis font du budgétaire, nous on fait du monétaire, parce que la Banque Centrale Européenne, c'est la seule institution véritablement fédérale, c'est-à-dire qui peut prendre des décisions à la majorité, alors que les chefs d'État européens sont contraints par la règle de l'unanimité, notamment en matière budgétaire et en matière fiscale, et c'est ça qui rend totalement impossible d'adopter quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'on peut pas résoudre toutes les questions du monde avec simplement de la création monétaire.
Il faut rappeler ce que c'est que quelle est l'action de la BCE quand on dit la création monétaire. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle a dit qu'elle allait racheter des dettes, c'est ça?
Oui, c'est ça, elle va racheter des dettes, ce qui peut être dans l'urgence la seule façon de faire, ou en tout cas un des outils absolument essentiels pour calmer la panique sur les marchés financiers, en particulier vis-à-vis de certains pays. On pense notamment à la dette italienne, mais plus généralement, la Banque Centrale Européenne peut calmer le jeu sur les marchés. Mais on n'évitera pas à un moment d'avoir des modifications structurelles dans la façon dont on s'organise en Europe, où on a besoin de beaucoup plus de solidarité budgétaire, on aurait besoin d'un budget en commun. On aurait besoin de mettre en commun le taux d'intérêt sur la dette publique. Si on continue dans une situation où on a une monnaie unique, mais où vous avez 19 taux d'intérêt différents sur les différents pays de la zone euro, ce qui fait que dès qu'il y a une panique sur les marchés financiers, et il y aura à nouveau des paniques à l'avenir, vous pouvez avoir des attaques spéculatives sur certains pays. Alors, la Banque Centrale Européenne essaye de faire ce qu'elle peut, mais...
Ce que vous voulez dire, c'est que les États, pour financer toutes leurs dépenses, ils vont devoir emprunter. Et donc, en effet, ceux qui ont les finances publiques les moins en bonne santé, ils vont se retrouver avec des taux d'intérêt.
On aurait besoin d'une dette commune.
Est-ce que c'est ça les corona bonds?
Si aux États-Unis. Oui, mais bon, ça va au-delà de l'enjeu, d'ailleurs, du coronavirus, et je sais pas si appeler ça coronabond soit forcément la meilleure façon de présenter les choses. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a besoin en Europe de pouvoir avoir une dette commune, ce qui permet de faire taire les spéculations des marchés financiers sur les taux d'intérêt. Vous savez, si aux États-Unis, il y a la Federal Reserve, qui est la banque centrale aux États-Unis, devait choisir chaque matin entre le taux d'intérêt de la Louisiane, le taux d'intérêt de la Californie, de l'État de New York, ce serait un bazar indescriptible qui empêcherait de relancer la machine efficacement. Et donc en Europe, on n'a toujours pas fait cette étape, et je pense que cette crise devrait être l'occasion de franchir une étape supplémentaire dans la solidarité européenne. Il y a des possibilités, par exemple une assemblée parlementaire franco-allemande a été créée l'an dernier par les gouvernements français et allemands, et moi je m'en félicite. Il faut essayer de s'appuyer sur les éléments positifs, sauf que pour l'instant c'est purement consultatif. Je pense qu'il faut s'appuyer sur des structures de ce type pour développer des outils nouveaux de solidarité dans l'urgence, d'abord évidemment avec la solidarité sur les patients qui doivent pouvoir être amenés dans les hôpitaux qui ont des capacités, dans les pays où ils ont encore des capacités.
C'est ce qui est en train de se passer entre la France et l'Allemagne.
Il faut le faire, et c'est vraiment l'occasion de montrer concrètement, très concrètement, de la façon la plus charnelle, humaine possible, que l'Europe peut faire des choses, et j'espère qu'on va aller plus loin dans cette direction. Mais il faut aussi mettre en place les institutions budgétaires, économiques, permettant de faire face ensemble à la crise. Et de ce point de vue-là, je veux redire à quel point on n'a pas tiré les leçons de la crise de 2008, c'est-à-dire qu'on continue d'avoir un système européen qui se fonde quand même sur les égoïsmes nationaux, où chacun espère avoir le meilleur taux d'intérêt sur les marchés que les voisins, mais cette espèce de croyance idéologique un peu folle dans la capacité des marchés financiers comme ça à fixer les bonnes règles budgétaires aux différents pays, il faut en sortir, parce que là on va rentrer dans une phase de très forte turbulence sur les dettes publiques et notamment l'Italie, l'Espagne qui sont très fortement touchées. Et donc voilà, pour l'instant les institutions ne sont pas prêtes pour ça. Alors, et donc c'est vraiment l'occasion, je pense, que d'initiatives très très fortes, notamment au niveau franco-allemand, mais je pense que je citais tout à l'heure l'Assemblée parlementaire franco-allemande qui a été créée l'an dernier, je pense qu'il faudrait que ce soit ouvert à l'Italie, à l'Espagne, si on ne peut pas aujourd'hui faire les choses simplement avec du franco-allemand. Il faut une ambition plus forte qui permette, en particulier pour les pays les plus touchés, de franchir à cette occasion une étape supplémentaire vers la solidarité européenne.
Mais est-ce qu'on n'est pas devant le même clivage qu'en 2010, finalement? On a les pays du Nord et donc l'Allemagne, les Pays-Bas qui disent aux pays du Sud, on ne veut pas mutualiser notre dette, vous ne savez pas gérer vos finances publiques et la France serait plutôt classée dans les pays du Sud. Là-dessus, on n'a pas, sur ce clivage-là, on n'a pas progressé.
Oui, mais ce petit jeu des égoïsmes nationaux consistant à tout le temps, comme ça, essayer de stigmatiser les autres et d'expliquer que tout est de la faute des autres, ça nous mène nulle part. Et je pense que là, une crise aussi grave que celle-là doit permettre de dépasser finalement ces petits égoïsmes nationalistes. La vérité, c'est qu'on ne peut pas faire fonctionner l'Union européenne, et on ne peut pas faire fonctionner la monnaie commune en particulier, si on n'a pas plus de démocratie, plus de justice fiscale, sociale, parce que tout est lié, c'est-à-dire que toute cette façon dont on a miné le financement des services publics ces dernières années. Souvenez-vous, il y a encore un ou deux ans, le gouvernement français disait « Ah, mais vous savez, les hôpitaux, la santé, l'argent tombe pas du ciel, on n'a pas les moyens ». Tout ça vient d'un système où on a une idéologie de la concurrence de tous contre tous, et en particulier des pays face les uns face aux autres, où chacun essaye d'attirer les investissements vers lui, de finalement, dans certains cas, piquer la base fiscale des voisins. Enfin, cette absence de politique au niveau européen, c'est aussi ça qui nous a conduit à cette absence de financement suffisant. On le voit aujourd'hui, le nombre de lits d'urgence dans les hôpitaux, notamment dans les pays les plus touchés, en Italie, en Espagne et en France, a chuté au cours des 10 dernières années. Est-ce qu'il ne faut pas revoir aujourd'hui?
Oui. Est-ce que le manque de solidarité européenne, Jacques Delors dit que ça fait courir un danger mortel à l'Union. Est-ce que on le dit à chaque fois? Est-ce que c'est encore plus vrai aujourd'hui?
C'est évidemment encore plus vrai aujourd'hui. Vous savez, après le Brexit, on peut plus faire comme si l'Union européenne était immortelle. C'est-à-dire que maintenant, on sait que face aux frustrations et face aux insatisfactions soulevées par l'Union européenne, des mouvements politiques peuvent proposer des sorties. Et je pense qu'il ne faut pas voir ça simplement comme la conséquence du nationalisme débridé des Britanniques, etc. C'est aussi un échec collectif face à un projet européen qui n'a pas su convaincre en particulier les électeurs des classes populaires et des classes moyennes que ce système fonctionnait pour eux. C'est-à-dire que un système qui se base simplement sur la mise en concurrence de tous contre tous, sur la libre circulation des capitaux, sans régulation publique, sans justice fiscale, sociale, environnementale, eh bien, c'est un système qui, effectivement, bénéficie surtout à quelques-uns, et dont beaucoup se sentent exclus, et ils finissent par se retourner contre ça. Donc là, on a une occasion unique pour prendre conscience d'une nécessité d'un changement de cours. Et c'est ce qu'on voit souvent dans l'histoire, et j'ai essayé d'analyser ça dans Capital et Idéologie. C'est-à-dire que les idéologies de comment on doit organiser l'économie sont souvent transformées à l'occasion de crises qui peuvent être des crises financières, sociales, politiques, militaires ou des crises sanitaires telles que celles qu'on a actuellement. Et voilà, ce qui compte, c'est d'essayer d'apprendre des leçons de l'histoire pour repenser l'organisation de notre système économique.
Alors justement, beaucoup d'auditeurs au standard pour vous, pour penser avec vous le renouveau du, enfin un nouveau système économique. On a Catherine en ligne. Bonsoir Catherine.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Piketty.
Vous nous appelez d'Anglette.
Ouais, voilà. Ouais.
Et vous avez une question justement sur...
Alors, j'ai une question simple. Voilà, en 2008, les États ont été contraints, on va dire, à soutenir les banques largement. Et est-ce qu'on va pouvoir attendre la même chose maintenant que les États sont le couteau sous la gorge après cette crise, pendant cette crise et après cette crise, on n'en doute pas compte tenu de l'évolution des économies pendant cette épidémie. Et la deuxième chose, le principe de l'affrontement est probablement lié au patriarcat qui est pérenne au-delà de toute intelligence démocratique. Voilà, ça c'est une réflexion. Mais la question c'est vraiment par rapport à la capacité aux banques à changer un peu de paradigme avec un rééquilibrage vers les forces productives au détriment un petit peu de l'actionnariat, ce qui a l'air d'être un petit peu compliqué, on l'entend tous les jours.
Vous voudriez que les banques cessent de verser des dividendes, par exemple,
non,
Catherine ?
Non, du tout, que ce soit un petit peu plus équilibré vers les forces productives.
Vous voudriez...
Une redistribution, ça s'appelle.
D'accord. Thomas Piketty.
Et une redistribution, ça peut pas être juste de demander poliment aux entreprises de la modération, comme on l'a entendu ces derniers jours de la part du gouvernement français dans les versements de dividendes. C'est-à-dire que juste demander de la modération, ça suffit pas. On sait très bien que si on veut avoir un effet, il faut des sanctions, il faut un système fiscal qui sanctionne certains types d'enrichissement, certains niveaux d'enrichissement, parce que c'est pas pareil de verser des dividendes à un chef d'entreprise qui est pour un niveau de salaire raisonnable ou verser des millions et des millions de dividendes à des personnes qui n'en ont pas besoin. Donc on a besoin d'un système fiscal avec des taux d'imposition qui sanctionne dans les proportions adéquates des comportements qui sont des comportements complètement antisociaux et qui alimentent une montée des inégalités qui finit par se retourner sur l'ensemble du système et l'ensemble des acteurs. Alors sur les sauvetages des banques, je voudrais quand même rappeler que effectivement à la suite de la crise de 2008, les différentes banques centrales de la planète et en particulier la Banque centrale européenne ont dépensé sans compter pour sauver les banques, mais sans mettre en place des systèmes de régulation financière permettant d'éviter que ces accumulations parfois complètement inconsidérées de dettes privées et de risques financiers pris par les institutions financières privées ne recommencent. Donc là, c'est très important qu'on ait aujourd'hui un contrôle démocratique de ce que fait la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le bilan de la Banque Centrale Européenne a pris une telle importance et pourrait être amené à l'avenir à augmenter encore davantage. Je voudrais rappeler que sur les 10 dernières années, on a créé plus de 3000 milliards d'euros de monnaie au niveau de la Banque Centrale Européenne. Donc la taille du bilan, comme on dit, de la Banque Centrale Européenne, qui était d'environ 10% du PIB de la zone euro, est passée à 40% du PIB de la zone euro, donc 30% du PIB de création monétaire en 10 ans. Juste pour donner un ordre de grandeur, c'est-à-dire que chaque année, on a créé 3% du PIB additionnel. C'est 3 fois plus que tout le budget de l'Union européenne qui finance pourtant Erasmus, la politique agricole commune, les fonds régionaux, enfin tout ce qu'on dépense avec le budget officiel de l'Union européenne, ben en fait la Banque centrale européenne d'un coup de clic de souris à huis clos sans aucun contrôle démocratique a créé chaque année 3 fois plus de ressources. Donc ça peut pas durer.
Thomas Piketty, est-ce que c'est son indépendance que vous remettez en question quand vous dites contrôle démocratique?
L'indépendance demande, quand on a des politiques qui prennent une telle ampleur, un contrôle démocratique beaucoup plus fort. Vous savez, les institutions, les règles actuelles ont été mises en place à une époque, dans le cadre du traité de Maastricht en 1992, qui était une époque où on considérait que les banques centrales étaient là, en gros, pour regarder passer les trains et pour juste s'assurer que l'inflation reste à un niveau faible et pour jamais rien faire d'essentiel. Jamais personne à l'époque ne se serait douté qu'on allait faire passer la taille du bilan de la Banque Centrale Européenne de 10% du PIB à 40% du PIB et que la Banque Centrale Européenne allait créer pendant 10 années consécutives 3 fois plus de ressources que tout le budget de l'Union Européenne. Donc le monde a changé. Et il faut maintenant adapter nos institutions démocratiques. C'est-à-dire concrètement, on a besoin que les responsables de la Banque Centrale Européenne soient auditionnés devant le Parlement européen. Je pense qu'une assemblée aussi parlementaire mettant en place les conditions pour que les députés nationaux, comme l'assemblée parlementaire franco-allemande avec les députés allemands, les députés français, puissent auditionner publiquement les responsables de la Banque Centrale Européenne sur la politique qu'elle mène, je pense que c'est indispensable. Si on veut pouvoir franchir les étapes suivantes, parce que ça va continuer. C'est-à-dire tant qu'on n'aura pas d'autres institutions permettant en particulier d'adopter un budget commun, on va demander énormément à la Banque Centrale Européenne, dont la taille de bilan potentiellement pourrait encore prendre de l'ampleur, et ça demande d'autant plus de contrôle démocratique.
Allez, on retourne au standard, Thomas Piketty. Juste, que va-t-on demander aux citoyens ? Ça, c'est la question de Gérard. Bonsoir Gérard et bienvenue au téléphone sonne.
Oui, bonsoir. Ma question est la suivante. Faut-il craindre que, au nom d'une pseudo-solidarité, des impôts supplémentaires ne soient prélevés sur les revenus et ou retraites plutôt que sur les grandes fortunes et les dividendes dont vous venez de parler, ceci après la crise, bien sûr.
Donc vous redoutez qu'il y ait des impôts supplémentaires ? Gérard.
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça.
On pose la question à Thomas Piketty. En effet, cette crise, on ne sait pas combien elle va coûter, mais on imagine qu'elle va coûter, que ça va coûter très cher, si on vous entend bien, Thomas Piketty. Est-ce que il faut redouter des hausses d'impôts?
Je pense que le gouvernement devrait, pour essayer de crédibiliser son nouveau discours sur la solidarité, sur le besoin d'investir dans la santé, dans l'hôpital, dans les services publics, si le gouvernement veut crédibiliser ce discours, il va falloir qu'il prenne des mesures très fortes en matière de solidarité. Et je pense que le gouvernement va devoir, et devrait à mon sens, rétablir l'impôt sur la fortune. Je pense que tout le discours du début de mandat sur les premiers de cordée, à qui il faut toujours faire plus de cadeaux fiscaux, pour qu'ensuite il tire la nation vers le haut. Je pense que ce discours aujourd'hui est complètement dépassé. Enfin, je pense qu'il était déjà un peu dépassé en 2017. Mais là, aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, après la crise des Gilets jaunes et après la crise du coronavirus, on va avoir besoin de ce financement d'investissement dans les services publics, dans la santé, où on a quand même fait payer au reste de la population des mesures extrêmement dures, avec l'augmentation de la CSG sur les retraités, les baisses d'allocations chômage, hein, qui ont été fortement baissées l'an dernier, donc des économies quand même très très discutables. Je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui que le gouvernement dise, voilà, il a entendu le besoin de changement, et je pense que le rétablissement de l'impôt sur la fortune est de ce point de vue absolument indispensable.
Alors si j'ai bien lu le ministre de l'Action et des Comptes Publics, toute hausse d'impôt pour l'instant n'est pas à l'ordre du jour, Thomas Piketty.
Oui, alors non, mais là je parle pas évidemment d'augmenter les impôts sur la.
Vous parlez exclusivement de l'impôt sur la fortune.
Simplement qu'il faut demander, un effort aux plus fortunés, à qui, comme on sait, un énorme cadeau fiscal a été fait en début de quinquennat, et je pense que. Vous savez, on le savait déjà avant cette crise, c'est un peu le péché originel qui fait qu'il y a un doute sur est-ce que le président Macron est le président des riches, est-ce qu'il se soucie vraiment de l'ensemble de la population autant que des 1% de la population à qui ce cadeau fiscal a été fait. Donc ce doute, disons, qui mine la confiance dans ce gouvernement dès avant cette crise, mais je pense qu'avec cette crise et les exigences nouvelles de solidarité, de financement du service public. Enfin, on voit aujourd'hui où ils sont les premiers de cordée. Ce sont les infirmières, ce sont les caissières, ce sont toutes les personnes qui ne sont pas des super cadres qui travaillent à distance sur leur ordinateur, etc. Donc, à un moment, il faut quand même ajuster le discours et la réalité de la politique suivie. Alors après, sur le financement des mesures d'urgence, je pense qu'effectivement, là, il va falloir, sur la question de la dette publique et du déficit, avoir une approche beaucoup plus pragmatique que ce qui a été l'approche des dernières années.
Thomas Piketty, vous avez vu que la règle des 3% de déficit, elle a été rapidement abandonnée, parce que dans le pacte de stabilité, il y a une clause qui dit qu'en temps de grande crise, le tabou doit tomber. C'est satisfaisant, ça ?
Oui, bah oui, c'est-à-dire de toute façon ces règles budgétaires sont totalement absurdes, contournées, rendent tout le monde mécontent depuis des années, et en fait maintenant, je veux dire, c'est complètement dépassé de dire oui, on va plus respecter les 3%. D'ailleurs maintenant, vous savez, la règle officielle en fait, c'est qu'il faut aller vers 0,5% de déficit public, ce qui de déficit secondaire, ce qui veut dire qu'en fait si vous avez des intérêts de la dette à payer, en fait, faut que vous soyez en situation d'excédent primaire. C'est-à-dire que officiellement, si on suit les règles européennes actuelles, au-delà de cette crise, si on se projette sur les 20 prochaines années ou les 30 prochaines années, des pays comme l'Italie, par exemple, sont censés faire des excédents budgétaires considérables au cours des 20-30 prochaines années, c'est-à-dire faire payer structurellement à leurs concitoyens plus d'impôts que ce qu'ils reçoivent comme dépenses. Alors, et ça, il va falloir changer ça. C'est-à-dire que je crois que là, à nouveau, le passage par l'histoire, moi, je plaide pour repenser les règles de l'économie, de faire ce passage par l'histoire, parce que ce dont on se rend compte, c'est que l'Europe, dans les années 50, s'est au contraire construite sur l'effacement des dettes du passé, en particulier des pays comme l'Allemagne ou le Japon, d'ailleurs dans d'autres parties du monde, ont mis en place au début des années 50 un prélèvement exceptionnel sur les plus hauts patrimoines, et notamment sur les plus hauts portefeuilles financiers, pour réduire très fortement la dette publique, qui à l'époque dépassait 200% du PIB au début des années 50 en Allemagne et au Japon, donc encore plus élevé qu'aujourd'hui. Et si on regarde rétrospectivement ce type d'épisode historique, ça a été un grand succès. C'est-à-dire que ça a permis d'alléger très rapidement le poids d'une dette que sinon il aurait fallu rembourser pendant les 50 prochaines années, voire davantage. Et c'est ça qui a permis d'investir dans les infrastructures publiques, dans l'éducation.
Alors, on va voir
les enjeux aujourd'hui sont d'une autre nature, mais il y a ce besoin aussi de remettre en cause les anciens dogmes.
Thomas Piketty, on continue, ce téléphone sonne avec vous, et Bernard est au standard, il attend depuis un certain temps. Merci d'avoir patienté, Bernard.
Oui, bonjour mesdames.
Bonjour, bienvenue dans le téléphone sonne. Donc qui doit payer cette crise, qui doit financer les services publics, c'est là-dessus que porte votre question.
Voilà, les GAFA ne payent pas d'impôts et pourtant utilisent nos infrastructures. Les grosses entreprises défiscalisent au maximum. 40 ou 50% des foyers français, des foyers fiscaux français ne payent pas d'impôts. Les gros salaires font tout pour déplacer leur argent à l'étranger. Alors je voudrais savoir comment on peut améliorer, enfin que le déficit soit un jour un petit peu résorbé après la crise.
Merci pour votre question, Bernard. Thomas Piketty, vous parliez de l'impôt sur les grandes fortunes. Bernard, lui, nous parle de la taxation des GAFA.
Oui, il a raison. Alors, je voulais quand même dire à Bernard que tous les Français, en particulier les Français les plus modestes, paient énormément d'impôts à travers la TVA, à travers la CSG, la contribution sociale généralisée, qui vous prend un mois de salaire, aussi bas votre salaire soit-il. La TVA peut vous prendre deux mois de salaire. Les taxes indirectes sur l'énergie peuvent rajouter un mois de salaire. Donc, les impôts sont très élevés dans ce pays, y compris sur les personnes qui, nominalement, ne paient pas l'impôt sur le revenu. Donc, il faut vraiment prendre en compte tout ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les acteurs économiques les plus puissants, les plus hautes fortunes notamment, et les plus grandes entreprises internationales. Alors pas seulement les GAFA, c'est-à-dire c'est pas seulement, je pense que justement pour régler le problème, l'erreur qui a été faite peut-être par le gouvernement français, c'est de se centrer sur le secteur des hautes technologies, alors que en fait si vous prenez des grandes sociétés dans le secteur du luxe ou dans le secteur de l'énergie, du pétrole ou dans tous les secteurs, parviennent également à contourner l'impôt sur les sociétés et très souvent à acquitter un taux effectif d'imposition plus faible que les petites et moyennes entreprises. Et donc, pour faire face à ça, je pense qu'il est indispensable que les pays, et à commencer par la France, s'ils ne parviennent pas à convaincre, par exemple, l'Allemagne, dans le cadre d'une assemblée commune, d'adopter un impôt commun sur les bénéfices des plus grandes sociétés, ce qui serait évidemment l'idéal, mais si on n'y parvient pas, d'une façon incitative et pour inciter l'Allemagne et les autres pays à avancer dans cette direction, eh bien, il faut mettre une imposition dissuasive sur les entreprises qui commencent par délocaliser leur profit dans des territoires où ils ne payent pas d'impôts et ensuite exportent des services ou des biens en France. Et là, je pense que la France et tous les pays d'ailleurs sont légitimes à imposer sur ces importations des sanctions qui permettent de compenser pour le déficit fiscal finalement de ces entreprises. Et c'est pas du protectionnisme, parce que pour peu que les pays voisins rétablisse un taux correct d'imposition sur ses profits, alors cette arme dissuasive cesse de s'appliquer. Et le but, c'est justement d'inciter les pays à aller dans cette direction. Mais on ne peut pas simplement attendre que l'unanimité se fasse. Je crois que maintenant est venu le temps d'actions vraiment incitatives, y compris au niveau unilatéral, si c'est nécessaire.
Mélanie, appel du Var, pour vous poser une question, Thomas Piketty. Bonsoir et bienvenue, Mélanie.
Bonsoir.
Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes à la tête d'un restaurant, n'est-ce pas ?
Voilà, d'un restaurant qui a 4 salariés et qui est donc fermé. Et j'écoutais M. Piketty et je me posais la question, pourquoi la BCE qui crée tant d'argent ne distribue pas simplement l'argent permettant aux entreprises directement, sans prêt, juste une distribution aux entreprises leur permettant de couvrir les charges fixes qu'elles supportent actuellement. Parce que une perte de chiffre d'affaires, d'un mois de chiffre d'affaires, pour moi, ça représente 8% de chiffre d'affaires. Mon bilan 2019, c'était 4% de bénéfices avant impôt. Et donc, on voit très bien, en 4 moins 8, je vais être en négatif. Et les prêts que je me vois proposer ne me font que craindre d'aller, de toute façon, de fermer dans un an. Donc, je comprends pas pourquoi on crée tant d'argent pour pas aider directement les entreprises.
Mélanie, si je peux me permettre une question, quand vous parlez des prêts, en effet, on entend qu'il y a tout ce filet de ce plan de sauvetage économique. On dit aux entreprises qu'elles peuvent mettre leurs employés au chômage partiel. On entend qu'elles peuvent aller voir leur banque et solliciter un prêt garanti par l'État. Tout ça n'est pas en train de vous aider en ce moment ?
Ça aide, mais enfin, le chômage partiel, sachez que depuis 15 jours, j'ai seulement mes identifiants maintenant, donc je vais pouvoir faire la demande. Je vais devoir avancer l'argent à la fin du mois pour payer mes salariés et être ensuite remboursée. Donc déjà, c'est compliqué de faire les payes. En plus, moi, je suis un petit restaurant, j'ai 4 salariés, c'est tout. Les prêts, j'ai pu décaler les prêts de 6 mois. Mais bon, ça rajoute des intérêts. Les intérêts sont pas offerts. Donc j'ai une pause de 6 mois sur mon prêt professionnel, sur lequel je suis caution solidaire.
Les reports de charges ?
Et le report de charges, c'est juste des reports. Mon propriétaire m'accorde un différé de 2 mois pour payer mon loyer, mais il ne l'annule pas. EDF, il ne les annule pas. C'est pareil, on paiera nos abonnements pour rien. On essaye de maintenir l'entreprise, de garder les assurances, etc. Mais je vois pas comment, avec les solutions actuelles proposées, les entreprises, petites comme les nôtres, pourront se redresser. Elles vont arriver à surnager peut-être 1 an. Mais on aura les prêts de trésorerie proposés, là, c'est un remboursement dans 12 mois. Et il y a quand même des frais de caution et tout. Donc c'est encore plus à alourdir et il faudra que le marché soit positif pour qu'on puisse rembourser tout ça.
Donc d'où votre question sur la Banque Centrale Européenne à Thomas Piketty et pourquoi elle ne distribuerait pas directement, finalement, pourquoi elle ne vous donnerait pas de l'argent ?
Voilà. Pour couvrir les frais fixes des entreprises, pour qu'elles survivent et que
merci.
Les emplois restent.
Vous voyez, la communication, elle devient mauvaise pile au moment où c'est parfait. Merci à vous, Mélanie. Mais restez quand même à l'écoute. Thomas Piketty, il y a 2 choses dans ce témoignage. Mélanie, qui n'était pas, son restaurant, en tout cas, le filet de sauvetage existe, mais il ne lui suffira pas. Elle le voit. Et une question très intéressante sur finalement pourquoi la Banque Centrale ne distribue pas de l'argent qu'elle créerait. Est-ce que ça peut exister ? Thomas Piketty.
Oui, bien sûr, ça peut exister. Mais d'abord, je voudrais rebondir sur le chômage partiel, parce que je pense que ce qu'a dit Mélanie est extrêmement important. C'est-à-dire que les mesures qui ont pour l'instant été annoncées sur le chômage partiel sont absolument insuffisantes. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est très complexe. Enfin, si vous essayez de vous connecter sur les sites du gouvernement, Mélanie l'a dit, c'est compliqué. Et puis, dans tous les cas, il faut avancer l'argent pour les entreprises qui sont ensuite remboursées, on sait pas quand. Et donc ça, sur des toutes petites structures, ça peut être extrêmement dangereux. Le deuxième point, c'est que le chômage partiel, ça ne concerne strictement qu'une petite partie, enfin une partie de la population active, de salariés, notamment de salariés en CDI, mais pour des personnes, par exemple, qui sont en fin de CDD, il n'y a pas de chômage partiel. Et puis pour toutes les personnes qui sont intérimaires, qui sont non salariés, qui sont auto-entrepreneurs, vous savez, tous ces statuts qu'on a voulu développer depuis 10 ans, en disant soyez tous des entrepreneurs de votre propre vie, créez toute votre entreprise, le salariat, c'est terminé, c'est ringard. Sauf qu'on se rend compte aujourd'hui que toutes les protections qui vont avec le salariat, ben, c'est quand même bien utile. Et donc, je pense qu'il y a tout un examen quand même de conscience à faire, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure sur la remise en cause, disons, idéologique. C'est-à-dire que on a besoin d'une société où, quand vous avez un choc sur le revenu de cette nature, il faut pouvoir très rapidement, automatiquement, être compensé, et on n'a pas pensé la question du chômage partiel d'une façon universelle, pour le coup, hein, on parlait de retraite universelle, qui n'était pas vraiment universelle d'ailleurs il y a encore quelques temps. Ben, sur la question du chômage partiel, je pense qu'on a vraiment besoin de repenser toutes les mesures de dérégulation, de déréglementation qu'on a fait, par exemple, sur les auto-entrepreneurs, qui aujourd'hui se retrouvent sans aucun filet de protection en termes de revenus. S'agissant de la Banque Centrale Européenne...
Alors oui, comment elle pourrait distribuer de l'argent? Est-ce que c'est possible?
Alors, c'est parfaitement possible. C'est-à-dire, techniquement, je vous le disais tout à l'heure, la taille de bilan de la Banque Centrale Européenne est passée de 10% du PIB de la zone euro en 2008 à 40% en 2019. Donc, concrètement, on a créé cette monnaie. Alors, c'est purement électronique, hein. C'est-à-dire, c'est pas, pour l'essentiel, c'est pas des billets, c'est simplement sur des ordinateurs où on a augmenté le nombre de signes monétaires de milliards d'euros qu'on a prêtés à des banques, à des entreprises. Mais bon, même si c'est purement électronique, évidemment, c'est très important parce que ça a des conséquences sur les faillites, sur combien vous pouvez dépenser. Enfin, c'est très important. Sauf qu'on l'a fait dans une vision idéologique très particulière qui était de sauver les banques, ce qui sans doute était utile dans l'immédiat pour éviter les faillites en cascade. Mais aujourd'hui, forcément, ça conduit à un questionnement plus général qui est-ce qu'il faudrait pas mettre la politique monétaire au service d'objectifs qui sont des objectifs sociaux, des objectifs de développement économique, des objectifs aussi environnementaux, parce que je voudrais quand même dire que, et c'est peut-être le plus grand paradoxe de cette crise, c'est que il y a quelques mois, lorsque certains disaient il faudrait peut-être calmer le jeu sur le transport aérien, sur les échanges internationaux pour diminuer les émissions carbone, tout le monde disait ah non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop coûteux pour l'économie, n'y pensez même pas. Et puis là, d'un seul coup, on se rend compte qu'on est capable de complètement terminer le niveau des enfin de mettre à zéro le niveau du transport aérien, de mettre à bas les échanges internationaux au nom d'une urgence sanitaire qui en l'occurrence est sans doute tout à fait justifiée. Mais ce que ça montre aussi, c'est que on est très en retard sur la prise en compte des urgences environnementales, des urgences sociales, sur lesquelles on a besoin de développer des procédures collectives qui seront différentes des urgences sanitaires, mais qui permettent de mettre toutes les ressources dont on dispose, y compris les ressources monétaires, au service de ces objectifs.
Et est-ce que vous croyez, comment vous envisagez ce monde d'après? Alors, est-ce que vous voyez que ce virus peut changer la localisation des industries, peut changer la perception de l'urgence climatique? Vous nous avez parlé d'une transformation du système fiscal, oui, des statuts du travail. Jusqu'où vous pensez que ce virus va changer le monde d'après?
Disons, ce que montre l'histoire des crises du passé, c'est que les crises en tant que telles ne sont certainement pas suffisantes pour produire toujours le changement politique espéré. Et je pense qu'il y a un besoin de mobilisation citoyenne extrêmement forte, un besoin de remise en cause de la part de tous ceux qui parfois sont pétris de certitudes d'un monde d'avant. Ouais. Mais il y a un vrai risque qu'en fait on recommence tout comme avant et que dès que l'économie reparte dans quelques semaines ou dans quelques mois, et bien finalement on oublie toutes les belles promesses. C'est pour ça, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de se saisir de propositions sur des changements vraiment structurels sur le système fiscal, sur l'impôt sur la fortune, sur le besoin d'une solidarité budgétaire au niveau européen, et en particulier d'avoir plus de contrôle politique et au niveau d'assemblées franco-allemandes, d'assemblées européennes, des politiques monétaires, des politiques budgétaires suivies. Il faut vraiment qu'il y ait des débouchés comme ça, concrets, institutionnels, qui ensuite laissent des traces. Parce que c'est ça qu'on voit dans l'histoire, c'est que les moments de crise peuvent transformer les choses à condition qu'il y ait des débouchés institutionnels qui changent durablement par la suite les règles du jeu.
Thomas Piketty, nous avons encore une question. Corinne, qui est au standard. Bonsoir Corinne. Corinne, vous êtes avec nous ?
Oui, bonsoir.
Merci d'avoir patienté.
Je vous en prie.
Vous nous appelez de Béthune.
Oui, c'est ça, dans le Pas-de-Calais.
Votre question, s'il vous plaît, Corinne.
Alors, je me posais une question peut-être un peu idéaliste, mais dans la mesure où tous les pays du monde sont concernés par cette pandémie, dans la mesure où toutes les économies de tous les pays vont être lourdement impactées, pourquoi est-ce qu'on décide pas tous ensemble d'arrêter, par exemple, les cotations boursières à une date, mettons le 1er mars, et de tout reprendre une fois que tout sera terminé ? C'est un système qui est quand même que contractuel, l'économie. Donc on pourrait très très bien prévoir d'effacer toutes les dettes qui auront été engendrées à ce moment-là et tout reprendre à zéro.
Merci pour votre question. Mais finalement, ça dans l'histoire on l'a vu, les effacements de dettes, est-ce que finalement c'est ça qui peut nous attendre, Thomas Piketty ?
Oui, des effacements de dettes, on en a vu beaucoup dans l'histoire, et c'est vrai que lorsqu'on accumule des niveaux de dette publique tels que ceux qu'on a actuellement en Europe ou dans les pays riches en général, au Japon, aux États-Unis, je pense qu'on va avoir besoin de remettre les compteurs à zéro à un moment ou à un autre, et le plus tôt sera le mieux, et il va falloir y réfléchir collectivement aussi sereinement que possible, et comme je le disais tout à l'heure, si on se plonge dans l'histoire du passé pas si lointain, par exemple de l'après-guerre mondiale au début des années 50, on a eu des gouvernements, et en particulier en Allemagne, au Japon, qui ont mis en place des prélèvements exceptionnels qui allaient jusqu'à 80-90% sur les plus hauts patrimoines, en particulier sur les plus hauts portefeuilles financiers, et qui épargnaient les plus bas patrimoine et qui ont très bien fonctionné. Et vous voyez, il y a quelque chose d'un peu hallucinant sur le fait qu'à l'époque, il n'y avait pas de technologie de l'information, de technologie digitale, mais pourtant, bon, bah, je ne sais pas comment ils ont fait, mais les gouvernements, ils ont réussi à imposer ces très hauts portefeuilles financiers. Et aujourd'hui, on est complètement pétri d'un discours consistant à dire « Ah, mais c'est impossible, vous savez, la circulation des capitaux, on ne sait pas pister les portefeuilles financiers. » Et c'est ça que je voudrais dire aussi, c'est que cette crise permet de prendre conscience du fait qu'on a complètement désarmé la puissance publique. Regardez quand même la situation actuelle. On en est à faire un confinement. Bon, c'est sans doute la seule chose qu'on peut faire dans l'état actuel des choses.
Ah bah, mais là, il s'agit surtout de sanitaire.
On devrait avoir normalement un système d'information publique de tests pour savoir où on en est de l'épidémie du virus. Et là, on se rend compte qu'on n'a pas les moyens de réaliser ces tests, qu'on n'a pas les systèmes d'information permettant de suivre la propagation du virus. Moi, ça me fait un petit peu penser à la question du débat sur les inégalités, où on n'a même pas parfois les données permettant de suivre les patrimoines financiers transfrontaliers. C'est-à-dire qu'on prétend qu'on vit dans une époque de big data, mais en fait, la big data, c'est surtout pour les monopoles privés qui utilisent nos données personnelles. Quand il s'agit d'informations publiques, de statistiques publiques et de régulation publique des crises sociales, aujourd'hui sanitaires, qu'on a besoin de réguler, en fait, la technologie en tant que telle ne résout pas les problèmes. Il faut des institutions sociales, des organisations publiques pour collecter les données, pour les utiliser. Et donc, j'espère que, voilà, c'est tout ça aussi qu'on va apprendre de cette crise.
Et qui aura peut-être un impact sur les programmes pour 2022?
Oui, j'espère, pour 2022, mais surtout là, dès 2020, en particulier au niveau européen. Moi, j'appelle vraiment de mes voeux une grande initiative franco-allemande, italo-espagnole. Vous savez, ces quatre pays qui sont aujourd'hui inégalement touchés, mais qui sont quand même très très lourdement touchés. On a en Italie, en Espagne, près de 1000 morts par jour, ces derniers jours, cette semaine. Donc, ces quatre pays qui, à eux seuls, représentent les trois quarts de la population et du produit intérieur brut de la zone euro, s'ils font une vraie initiative commune avec une assemblée parlementaire commune capable d'adopter un budget commun de relance. Regardez ce qui a été fait aux États-Unis, le Congrès états-unien, malgré, vous savez, ils sont pas faciles, les républicains, les démocrates au Congrès états-unien, mais ils ont été capables en deux jours d'adopter un plan de relance de 2000 milliards de dollars. Donc pourquoi nous, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, on serait pas capable dans ces moments de crise? Donc voilà, n'attendons pas 2022, c'est maintenant.
Merci Thomas Piketty, le message a été lancé. Merci d'avoir eu ce moment de dialogue avec les auditeurs sur France Inter. Et prenez soin de vous. Dans la deuxième heure du Téléphone Sonne, on va observer et questionner le rôle du numérique pendant le confinement. On voit que les smartphones sont utilisés, les écrans pour nos liens, pour nos soins, pour notre information, pour l'éducation. Difficile de faire sans. Et du coup, y a-t-il des questions sur des citoyens qu'on laisserait sur le bord de la route? On se retrouve à 19h20, mais le standard est déjà ouvert. Pour l'heure, nous avons un autre joli rendez-vous au bout du fil.
L'action se déroule dans ta ville, d'hélicoptère ou du haut d'une bulle. Et puis la caméra zoom avant.
Ça y est, vous l'avez reconnu ?
Jusqu'à ton...
Bah, il est au bout du fil. Bonsoir, Louis Chédid.
Bonsoir, madame. Bonsoir.
Bonsoir. Alors ça, c'est un petit extrait de votre concert sur votre page Facebook.
Exactement, exactement. D'où la qualité du son qui n'est pas optimum. Mais
ah
bah
j'imagine, on s'en fiche.
Non, on s'en fiche. Mais oui, oui, c'est que j'ai donné vendredi dernier à 16h et que je redonnerai très prochainement. J'annoncerai ça parce que je trouve que c'est un lien. Vous savez, c'est vendredi dernier était mon premier concert normalement de ma tournée. Il devait commencer comme ça. Et donc.
Ça n'a pas pu avoir lieu, oui.
Non, non, évidemment, mais et donc je l'ai fait sur Facebook et c'est vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire d'avoir la chance d'avoir ce lien là numérique avec les personnes et avec le public et c'est merveilleux de partager ça et de pouvoir continuer à chanter et à être entendu et je sens que ça fait du bien aux gens, donc c'est merveilleux.
Donc le concert confiné, ça vaut le coup, même si j'entends bien que sur la qualité technique pour un artiste...
Oui, mais c'est pas très grave, ouais. Vous savez, en fait, tout le monde sait, c'est des guitares-voix, je suis tout seul, hein. Enfin, les gens qui le font en général sont tout seuls, puisque
vous avez fait ça,
ouais. Avec des musiciens, etc. Donc voilà, c'est un parti pris, tout le monde sait que c'est comme ça. Mais ce qui est important, c'est que les émotions passent, quoi. C'est surtout ça.
À propos d'émotions, sur votre page Facebook, vous avez écrit à vos fans, prudence, patience, vigilance, non-violence, résistance. Et au bout du tunnel, vous avez écrit en très gros, renaissance.
Ouais.
On sent que
ouais,
vous avez ouais. envie de ça.
Et j'ai dit vidéoconférence aussi. Tout ça rime. Non, mais oui, bien sûr, bah, de toute façon, on va s'en sortir, c'est obligé. La nature humaine et l'humanité se sort de tout, en fait, depuis toujours. Donc on s'en sortira, ça va prendre un certain temps, je pense que ça va être très long. Enfin, je vous ai écouté juste avant que vous me preniez à l'antenne, c'est très complexe et c'est très lourd tout ce qui arrive. Je pensais jamais vivre une chose pareille dans ma vie, et je pense qu'on est beaucoup, beaucoup à...
On est tous un peu pareil, oui.
À se dire ça, je veux dire, on n'imaginait pas, c'était pour les films de science-fiction, ce genre de situation, et puis nous y voilà.
Et il y aura une renaissance.
Il y aura, bien sûr, évidemment, de toute façon, on s'en sortira, j'en suis certain.
Merci.
Il faut être très prudent, et voilà, c'est-à-dire rester chez soi et être très prudent.
Et continuez-vous, Louis Chédid, à nous envoyer des bulles de douceur. Merci.
Merci à vous.
Merci, prenez soin de vous.